cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jaudard le 12 octobre 1994.
Je vais répondre à plusieurs questions. Vous voyez, je n'hésite pas de le faire parce que c'est tellement important de bien saisir le point de départ. C'est cette fameuse parole d'Aristote. Si il y a une petite déviation au point de départ, cette déviation augmente dans tout le développement. Ça vous fait comprendre. La ratio entis touche le fond. L'intelligence est liée à la volonté, l'intelligence est liée à la sensibilité, l'intelligence est liée à l'imaginaire, mais je n'ai pas touché l'intelligence séparée. L'intelligence séparée, c'est l'intelligence qui est déterminée, spécifiée par la ratio et 10. Ça, c'est très très important, c'est de la critique, ça, ce que je vous dis là. Hein. Ça présuppose qu'on a été ému. Intellectuellement parlant, que notre intelligence, dans sa vulnérabilité la plus profonde, a été touchée par la ratio N10. Alors, la ratio N10 est au-delà de ces deux modes humains de connaissance, abstrait et concret. Parce que ces deux modes, abstrait et concret, sont un conditionnement humain. Tandis que l'intellectus, outil intellectus, l'intelligence comme intelligence, est au-delà du mode humain. C'est l'intelligence. Capax Dei. Parce que justement là, tandis que l'intelligence abstraite et l'intelligence concrète n'est pas Capax Dei. Tant que vous n'avez pas dépassé ce mode abstrait et concret, vous ne pouvez pas atteindre Dieu. Parce que Dieu n'est pas abstrait. Parce que Dieu n'est pas concret. Le concret, c'est Pierre, hein, pour nous. Dieu est l'être. Alors il faut que l'intelligence ait été dans sa vulnérabilité profonde, dans sa capacité profonde, ait été actuée par l'être, pour qu'elle soit jusqu'à la découverte de Dieu. Mais ça, c'est un regard critique, mais capital, de saisir ça. On le reverra en théologie naturelle. Parce que c'est ça le fil conducteur. C'est là le cordon ombilical spirituel de notre intelligence vis-à-vis de Dieu. Nous sommes nés de Dieu et nous retournons à Dieu. Faisons attention, hein. Pas de la même manière que dans la foi. Mais au point de vue intellectuel, je peux le dire, l'intelligence est née de Dieu. Elle n'est pas née de mes parents. Hein? C'est ça qui nous libère du cordon ombilical psychologique. Et tant qu'on n'a pas découvert ça, le cordon ombilical psychologique demeure ce qu'il y a de plus fondamental. On est lié à sa mère, on est lié à son père. Reste tout le temps en référence avec ça. Il y a des gens à 40 ans qui restent comme des petits toutous. Il y a le fil. Hein. Le petit chien, on le fait, on l'a dit. Hein. On dit, espèce d'imbécile, tu vois pas que tu as 40 ans, tu devrais avoir un peu d'autonomie. Non, non. Cordon ombilical. C'est extraordinaire, hein, mais ça, il ne peut être coupé intellectuellement que si vous atteignez la ratio. Oui, ça, ça doit vous activer, vous donner un peu de désir de faire de la philosophie première. Parce que c'est à ce moment-là où vous pouvez dire « Ah, je me tiens en face de Dieu. » Dans l'obscurité, il est là. C'est ça qui est important. Hein. Mon intelligence est faite pour Dieu. Pas directement. Pas immédiatement, mais elle est faite pour Dieu. Et elle n'est intelligence comme intelligence en acte que quand elle est capable d'être spécifiée par la ratio N10. Donc vous voyez, je suis au-dessus du point de vue de l'abstrait et du concret. L'être, quand je dis l'être comme ça, tout simplement, c'est cette ratio N10. Parce que si je prends l'être dans l'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être? C'est pas la ratio N10, vous comprenez bien. C'est le mode abstrait à partir du mode concret, ce qui est. Je ne commence à toucher la ratio N10 que quand j'atteins ce qu'il y a de premier dans l'être, donc la substance. Tant que je n'ai pas atteint la substance, je n'ai pas atteint la ratio N10. Je suis devant deux modes de l'être, le concret et l'abstrait. Ceci est, qu'est-ce que c'est que l'être ? nouvelle manière. Donc il y a trois manières. Il y en a quatre. C'est ça qui est terrible. Parce que si je m'en tiens à mon, au langage, je suis perdu. C'est là où on voit très bien que la philosophie du langage, c'est tellement, tellement pauvre. C'est une philosophie des vêtements. Il y a des gens qui vivent uniquement dans leur vêtements, dans leur apparaître. Ils ont une garde-robe parfaite. Été, printemps, automne, hiver. C'est parfait. Quatre modalités de vêtements. Et plusieurs. Ce qui change tous les jours. Eh bien, c'est des philosophies. Une armoire de vêtements. Une garde-robe. Oh, quelle belle garde-robe. Vous pouvez dire ça de certaines philosophies. Oh, quelle garde-robe magnifique. C'est la philosophie de la parole. C'est la philosophie de la communication. C'est ça. C'est une philosophie qui demeure dans la relation. Elle ne va pas plus loin. C'est une philosophie de l'apparaître. Or, la philosophie de l'être, c'est une philosophie qui veut dépasser l'apparaître pour saisir ce qui est. Et c'est ça qui m'intéresse. L'apparaître de l'homme, très bien. Ce n'est pas l'habit qui fait le moine. Mais l'habit fait quelque chose par rapport au moine. Puisque le moine apparaît. Mais ce n'est pas, si je ramène toute ma vie monastique à un habit bien plié, qui sort tous les matins, parce que ça a été pendant la nuit complètement ratissé. Alors tous les matins, un habit neuf. Vous direz, quel moine mondain. Ça, c'est le moins. Alors, vous voyez, comprenons bien que la signification de être, la signification de ceci est, est la même. C'est toujours la signification de l'être. Et cette signification ne sera parfaitement atteinte que lorsque j'aurai atteint la ratio endis. La ratio endis exprime la signification de l'être dans toute sa pureté. Tandis que la signification de l'être dans ceci est, c'est un mode concret. La signification de l'être dans qu'est-ce que c'est que l'être, c'est un mode abstrait. Le retour à l'expérience, dans la lumière de l'être, c'est un désir de saisir dans ce qui est l'être en profondeur. Et la réponse à ce retour sera la découverte du principe selon la forme de ce qui est. Et ce sera la substance. Ayez ce petit schéma, ça vous aidera. Ceci est. Tout le monde peut saisir ça. Hein. Ceci est. Ça, c'est déjà un peu plus calé. Mais quand même, hein, qu'est-ce que c'est que l'être? Vous pouvez vous poser la question. Mais l'être, selon ce mode abstrait, universel, vous ne le touchez plus. Ici, vous le touchez. Vous le touchez intellectuellement, hein, c'est pas votre poids. C'est l'intelligence qui le touche. C'est un jugement d'existence. Universel et l'intelligence seule saisit l'universel. C'est le mode intellectuel. Puis vous revenez à ceci et très bien, moi je peux pas, ça n'a pas de sens pour moi. Moi, seul, ce qui est a de l'indécence. Alors je dirais, bon, très bien, votre intelligence n'est pas encore éveillée. Il y a beaucoup d'intelligences qui ne sont pas éveillées. Alors il reste en ceci, le positivisme, c'est ça. Le positivisme reste dans le concret. Il ne veut surtout pas aller, qu'est-ce que c'est que l'être, parce que le positivisme craquerait. Dès que je pose la question, qu'est-ce que c'est que l'être, je ne peux plus être positiviste. Puisque je vois que c'est l'intelligence qui dépasse le concret. C'est l'intelligence qui veut saisir une réalité dans ce qu'elle a de plus profond. Alors, là, expérimentation où je regarde et sans attention, hein, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est bien d'avoir les deux. Celui-là, je le biffe et je mets toute la lumière de l'interrogation qu'est-ce que c'est que l'être sur « est ». Et quand je veux savoir dans ce qui est, sous la lumière de l'être, qu'est-ce que ça veut dire, je veux connaître ce qui est premier. Du point de vue de l'être. Qu'est-ce qui est premier dans ce qui est du point de vue de l'être ? Oui, donc il y a bien trois positions. Un, deux, trois. Chemine dans métaphysique dans ses premiers pas. Et chaque fois, je cogne la tête sur des erreurs. Et je dois dépasser ces erreurs. Alors ce qui est intéressant, ce qui est première erreur, Descartes, Kant, ceci n'existe pas. Je ne peux pas avoir ce jugement d'existence sur ce qui est. Pourquoi ? Parce que Kant part de la physique, de la science physique. Il n'y a plus de jugement d'existence. On peut avoir une idée d'être, mais je ne peux pas atteindre l'être tel qu'il est. Pour Descartes, non plus. Pour Descartes, il n'y a pas de jugement d'existence. Puisque premier dans la vie intellectuelle, c'est pas ce contact avec la réalité, c'est l'idée cogito. Vous voyez ? Alors marquons ça en rouge pour commenter les hérésies métaphysiques. Et Descartes est un hérétique métaphysique, n'est-ce pas ? Cogito. Le cogito efface, empêche ceci. Vous avez le cogito cartésien. C'est les formes a priori transcendantales. Au-delà de toute expérience. Je suis coupé d'expérience. Le cogito naît à partir d'un primat d'idée. C'est pour ça que le jugement d'existence pour Descartes est second. C'est l'application de l'idée que j'ai à la réalité. Donc c'est plus un jugement d'existence. Je mesure la réalité par mon idée. Et tout ce qui est en dehors de mon idée n'existe pas. Ce que mon filet prend, je l'appelle poisson. Mais tout ce que mon filet ne prend pas n'est pas poisson. Je l'ignore. C'est très très curieux. C'est l'idée qui devient mesure. Alors évidemment, c'est l'idée d'infini qui devient mesure de ce qui est. Donc le jugement d'existence n'existe plus, il est absent. grands-pères étaient tous cartésiens. Vous l'êtes plus, j'espère, parce que... Mais vos grands-pères l'étaient. Je me souviens dans un salon de Lyon, une fois d'avoir critiqué Descartes, j'ai vu devant moi des hommes très sérieux, les hommes les plus sérieux du monde qui soient, la sacrée droite, qui était là. Mais mon père, tout va être détruit, alors si vous attaquez Descartes. Conduit à la saisie on a des chances qu'il y a creusé pour saisir la radio N10. Ne dites pas que vous saisissez la radio N10 dans le jugement d'existence. Non. Mais la radio N10 est présente en acte dans le jugement d'existence. Elle est présente en acte, mais elle n'est pas explicite comme radio. Mais il faut bien distinguer être présent en acte et être explicité par l'intelligence. Donc vous voyez, vous avez cinq moments pour aboutir à la radio N10. Comme ça, j'espère que vous voyez mieux ces différents moments. Et c'est toujours la même signification, mais plus ou moins explicite. Là, vous avez les deux conditionnements humains. Ça, les deux conditionnements humains, concrets, abstraits. Les deux conditionnements humains. Et le dépassement du conditionnement humain se fait par l'induction. Je le retourne.
N'évahit-il pas aussi ce qu'Aristote appelle l'étonnement?
pour ça, quand on se moque de lui, c'est pas commode, hein. Parce qu'alors, il vous prend. Ça existait, je me souviens, la première fois que j'étais au Rwanda, on m'a raconté que pendant l'été, il y avait eu des jeunes Américains qui étaient venus, qui avaient regardé l'éléphant, qui s'étaient mis à se moquer devant l'éléphant, à plusieurs. Alors, on a vu l'éléphant magistralement se retourner vers eux et prendre un de ces jeunes avec sa trompe et puis le lancer en l'air.
Et je crois que...
Et deuxième, posez-vous la question, y a-t-il des interrogations chez Hegel? L'idéaliste n'interroge plus. C'est peut-être, voyez, ça qui est le plus important à saisir. Si l'intelligence interroge, elle veut la vérité qu'elle n'a pas. Elle cherche la vérité qu'elle n'a pas. Et c'est pour ça qu'elle interroge. Et l'interrogation, c'est l'âme de l'induction. C'est-à-dire, c'est grâce à l'interrogation que je vais creuser davantage. Que je reviens au réel. Mais que je reviens au réel déterminé, orienté vers une recherche. Qu'est-ce que c'est que l'être? Vous voyez, quand vous expérimentez la réalité, quand vous touchez la table, vous ne vous posez pas la question « qu'est-ce que c'est que l'être ?» Tandis que si vous avez l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?» et je me heurte à la table, je peux me poser la question « qu'est-ce que c'est que l'être ?» de la table. Je dirais, qu'est-ce que c'est que l'être de la table? C'est un être artificiel. C'est un être fait par l'homme, par un artiste. Le premier qui a pensé la table. C'est quand même pas bête. Hein. C'est quand même curieux. Et à partir de la table, on avait des pilotis. C'est évident. Puisque sur la table, on peut construire quelque chose. Et donc, les pilotis, c'est les pieds qui sont enracinés dans le sol. Mais la table ne touche pas le sol. Je me suis élevé. Pas bête, hein, la table. Mais c'est un être de raison. Un être, non pas un être de raison, c'est un être artistique, construit par l'homme. Et avant de construire la table, j'ai eu l'idée de la table. Puis je l'ai construite. Alors vous voyez que ce que dit Descartes est vrai pour l'être artistique. Et c'est ce que dit Aristote avant Descartes, bien avant Descartes. Si Descartes avait connu Aristote, il n'aurait pas dit tant de bêtises. Parce qu'Aristote dit que pour toutes les réalités artistiques, la substance, c'est l'idéa. Et ça, c'est très important de dire ça. Parce que les connaissances artistiques ont ce privilège d'être toujours celles qui sont les plus proches de moi. Donc c'est très intéressant de voir qu'est-ce que c'est que la substance dans la philosophie de l'art. C'est l'idéal. Eh bien, je vais chercher maintenant est domestique, il est animal. Et grâce à Dieu, l'animal réapparaît de temps en temps au-delà du domestique. C'est l'être sauvage. Il faut dépasser l'être domestique et découvrir l'être sauvage avant que l'homme l'ait abîmé. L'embryon, je veux qu'il reste sauvage. Parce que si l'homme commence à l'y toucher, il en fera un monstre. Premier.